Bah oui, elle prend mieux y'a que ça, le second ça existe pas.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Go ahead.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Make my day.
Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
Le second, c'est un con.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous te prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 233 et de l'autre côté de la France, même j'ai envie de dire, on a un espoir.
Attention ce que tu vas dire.
On l'appelle le Raphaël Glucksmann de la montagne.
Je ne te laisserai pas dire des choses comme ça. Cette chose restera sans commentaire. Voilà,
c'est vraiment la première chose qui m'est venue.
Écoute, ce sont tes paroles, tu les assumes. Sache que voilà, moi, je ne me prononcerai absolument pas sur ce qui vient d'être dit.
Non, bien sûr. Mais déjà, de toute manière, ne se prononce pas, il y a un peu ton nouveau nom maintenant.
Bah oui, on ne prononce plus mon nom, voilà.
Stéphane Boulet, tu ne t'engages plus, genre tu non. Demandes ton avis sur Avatar, tu dis « Non, je ne me prononce plus ».
Ah, il y a des limites quand même aussi, je peux donner mon avis sur Avatar, ça va.
Non, parce que cet homme, parce qu'il s'est écoulé plus d'un mois, à peu près un mois, je ne sais plus combien, entre le précédent épisode et celui-là, donc là on est atteint un record, on commence à rebaisser notre espace-temps, notre espacement d'épisodes, et on est désolé, mais on se rapproche là au fur et à mesure pour reprendre
un
rythme de croisière. Oui, on essaie, en plus les vacances arrivent, enfin les vacances, tu vois ce que c'est les vacances,
je vois ce que c'est, j'ai pas décidé d'arrêter les vacances, par contre il est possible que j'ai des vacances un poil agitées, mais bon ça c'est...
J'ai peur pour toi, non mais c'est vrai que sa vie s'agite, mais depuis qu'il a accepté ce poste au ministère de la culture, de l'éducation,
c'est ça,
ministre. Pour l'instant c'est monsieur, moi je t'appelle chef.
Oui c'est ça,
Stéphane,
exactement.
Comment vas-tu?
Ça va, écoute...
T'as l'air d'avoir la pêche, et je tiens à rassurer tout le monde, lors du précédent épisode, tout le monde disait oh, « Stéphane, petite voix, qu'est-ce qui va pas ?» Parce qu'en plus, il y a eu notre absence, il y a eu le hiatus de 3 mois, qui est le record de ce podcast, mais heureusement, on va y remédier. Mais surtout, les gens ont entendu ta voix. En fait, je vous rassure, ce mec, il était en train d'enregistrer sous une couverture.
Oui, alors les conditions, voilà, sont pas. Pour trouver des créneaux d'enregistrement, c'est pas facile. Ensuite, pour avoir les conditions réunies, c'est encore moins simple parce que voilà, je suis. On me prête parfois de temps en temps un logement, mais qui s'avère être vide. Donc du coup, en fait, en termes de déco, c'est absolument abominable. Et si vous posez la question, c'est pourquoi est-ce que j'enregistre pas chez moi, c'est simplement que vu l'horaire à laquelle je pars et laquelle je rentre chez moi, c'est purement impossible que je cale un enregistrement dans le tas. Donc du coup, voilà, on essaie de trouver des moyens, et la dernière fois, effectivement, je trouve un moyen de briser l'écho, et c'était mon seul moyen, c'était enregistré sous une couverture. J'ai trouvé une autre solution, on verra ce que ça donne.
Oui, tu as tapissé des boîtes d'œufs dans tout l'appartement.
C'est ça, exactement.
Ou alors, tu sais, il a calfeutré la maison, et là, on lui dit, mais monsieur Boulet, vous êtes sûr de ce que vous faites? Il dit, ah ouais, j'ai vu ça dans Dexter, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de problème, tout va bien se passer.
Idéal pour faire disparaître quelque chose de compromettant. Voilà, ils vont te prendre pour un serial killer. Non, et alors moi, je suis le mec, j'ai fait comme un mot des parents, je t'ai dit, mais tu t'en fous. T'es chez toi, t'as le droit de parler. Imagine que tu parles au téléphone. C'est la même chose. Tu vas parler à la même.
Oui, non, mais c'est.
Près, mais même, avec la même voix. Donc, en fait, il a fallu juste que je te désinhibe.
C'est ça. Exactement.
Non, mais c'est pour ça que, maintenant ta voix est normale, puisque t'es plus sous la. Et j'ai pas une caméra pour surveiller non plus ce qu'il fait.
Non, mais c'est, voilà.
Il m'aurait dit à l'époque.
J'ai trouvé une autre solution aujourd'hui.
Sous une couette. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de savoir. Alors, par contre, moi, j'ai pas un souci, au contraire, quelque chose qui m'apporte beaucoup de baume au cœur, mais qui, par contre, change un peu la tournure de cet enregistrement. C'est vraiment un changement de tournure, franchement, tu sens que c'est le changement de siècle, quoi. Tu l'entends peut-être, t'entends des petits clics-clics-clics sur le parquet.
J'entends, effectivement.
C'est les petites pattes d'un petit toutou qui est chez moi, qui s'appelle Udon. qui est un petit corgi qui va bientôt fêter ses 3 ans le mois prochain.
Est-ce que Udon a une liste pour nous?
Alors, Udon, il a une liste Air Bud, Air Bud 2, Air Bud 3, Air Bud 4, Air Bud 5, Air Bud 6. Alors, figure-toi que j'ai regardé The Boys avec Udon, il n'y a aucun problème. Les têtes qui giclent et tout ça, pas de problème, vraiment, il est très, très, très attentif. Par contre, j'ai essayé de lui montrer Cowboy Bebop pour voir, ouais, hein, tu vois, si ça marchait. Non, Cowboy Bebop, ça marche zéro sur lui, quoi.
Ah d'accord, bon, c'est intéressant à savoir.
Parce qu'il y a, je dis ça parce qu'il y a un corgi dans Cowboy
Bebop. Il y a un corgi, tout à fait.
Et donc, parfois, il y aura des petites pattes que je vais essayer de gommer de temps en temps, mais c'est un animal, on ne peut pas lui dire « reste là » et il ne bouge pas. Enfin, ce n'est pas pour faire le quicks, là « ah, j'ai mes chats » et tout ça, machin, truc. Non, non, moi, c'est un vrai animal capable d'intelligence, quoi.
Tu parlais de quicks avant ou voilà, j'ai perdu le fil.
Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. Est-ce que ça te dirait pas de faire au moins, parce que ça fait plus d'un mois, le topo de l'épisode 232.
Alors, 232, nous avions parlé de fromage, puisque...
Oui, on a parlé de fromage, oui, c'est vrai.
Puisque on a classé Beaufort à la 35e place. Voilà, film de guerre israélien atypique, pour le moins.
Disons que c'est un film de guerre contre la guerre, déjà.
C'est ça, exactement. Et voilà, ouais, avec, qui... très particulier, enfin qu'on vous recommande. Hein, il arrivait 35e, donc autant vous dire qu'on vous recommande d'y jeter un œil.
C'est un film très particulier, mais qui peut être fait que par quelqu'un qui est contre qui comprend l'armée, mais qui ne l'aime,
oui,
pas. Quoi.
Enfin, qui a vécu certaines choses, on va dire. Voilà,
C'est pas les sentiers de la gloire, mais c'est un peu clairement c'est l'influence. Quoi.
Ensuite, on a classé la communauté de l'anneau, le Seigneur des Anneaux, donc qui arrive à la 86e place, qui et restera, vu qu'ils sont tous sortis dans les années 2000, le meilleur film du Seigneur des Anneaux. C'est dit. Ensuite,
et ouais, c'est la communauté, ouais, c'est le, parce que les autres sont un peu moins bien classés, chez nous,
oui, ils sont un peu moins bien classés, et puis voilà, celui-là c'est, voilà, encore une fois, c'est celui qui reste le meilleur. Ensuite, on a un package autour de la 325e place, donc 324, 326, Bleu d'Enfer, toujours pour rester dans les fromages, et X-Men 3, voilà.
Bien.
Non, c'était pas très bien. Écoute, mais on a trouvé pire.
C'est des films qui ont été majoritairement cancel par les gens qui ont participé dedans, oui. Mais figurez-vous que peut-être qu'on va en reparler de sous cet angle, voilà, encore nous, puisque c'est les années 2000, figurez-vous.
Oui, ça va, c'est... J'ai hâte. Et on a fait pire, puisque à la 363e place, on a Vercingétorix. Voilà, qui est un peu l'équivalent d'un spectacle du Puy du Fou, si le Puy du Fou n'avait pas d'argent.
C'est dégueulasse, et en même temps,
c'est pas faux.
Si vrai, c'est pas faux. Alors, on va tout de suite se lancer, parce que notre temps est précieux, et en plus, t'as besoin de te coucher tôt, parce que, évidemment, oui, t'as des horaires impossibles. Et c'est j'ai ça. Décidé, exceptionnellement, de te respecter.
Oula.
On va pas écouter ton avis.
233 épisodes pour en arriver là, quand même. C'est beau. Ne perdez jamais espoir.
C'est l'histoire d'une belle amitié. Alors qu'on fête l'anniversaire du podcast bientôt.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que
qu'on l'a déjà passé, en fait, non?
Non, attends. Ça vaut le coup de vérifier. Putain, les totos qui connaissent pas leur date de naissance, quoi. Le premier épisode... Oh, mec! Oh non! Allez, joyeux anniversaire! On vient de fêter nos 10 ans.
C'est vrai? Non.
Mais ouais. L'épisode 0 a été diffusé le 15 mai 2016.
Oh là là! Eh ben, 10 ans, incroyable. Eh ben...
Ouais, tu te souviens de cette époque où on faisait 15 films par épisode?
On faisait un épisode de 50 minutes avec 15 films.
Ben ouais, il fallait remplir au début, mais au bout d'un moment, on s'est dit, merde, peut-être qu'on faudrait qu'on parle plus des films.
Quand même. Peut-être faudrait qu'on parle des films, en fait.
Et la formule est restée.
Et donc,
voilà, 10 ans plus tard, joyeux anniversaire, Stéphane. Et comme
joyeux
anniversaire, Daniel. Comme on dit chez moi, partant pour 10 ans de plus. Allez.
Ben, on va essayer, oui.
Je sais pas si c'est nos noces de je sais pas quoi, là. Mais... oui, allez, on va se lancer. Et pour fêter ça, c'est une liste qui n'a absolument rien à voir avec le fait que c'est nos 10 ans. Parce que tu sais, on n'est pas
vraiment des commerciaux,
on ne sait pas très bien se vendre. Mais tu vas voir, c'est une liste, c'est un classique de Super Ciné Battle. C'est une liste qui est réservée par Michael, elle vient juste d'arriver.
Merci Michael pour ta liste qui vient juste d'arriver.
Enfin, à peu près, je viens d'arriver. Et c'est une liste qui s'appelle Nepo Babies à la française.
Oula. D'accord. Alors, putain. Alors, je jure que s'il y a du Bedos dedans, je fais un malheur.
Mais non, parce que Bedos, sa décennie, c'est 2010.
Oh oui, je me méfie.
Et la question, c'est comme on ne fait pas Super Série Battle, on ne pourra jamais classer Alphonse, qui est un peu son master opus.
Ah oui, c'est regrettable. Hein.
C'est regrettable. Et tu sais qu'il existe le making-of d'Alphonse qui est vraiment un chef-d'œuvre. Genre, je pense que dans le genre making-of fou allié sur son auteur, je pense qu'on n'est pas loin du truc de Bernard-Henri Lévy. Quoi,
tu vends du rêve.
Tu te souviens le film, comment il s'appelle ?
Le jour et la nuit.
Le jour et la nuit, voilà.
C'est ça.
Qui s'appelait Autopsie d'un massacre.
Et ouais, voilà, Autopsie d'un massacre, c'est ça.
C'est un peu son Autopsie d'un massacre à lui.
Oh là là.
Non, on va pas avoir Bedos, mais par contre, on va avoir des gros noms, mec, figure-toi, puisqu'on va parler de Sur mes lèvres de Jacques Audiard, qui est le fils de Michel.
Ah oui. Ouais. D'un seul coup, on parle. On parle pas là, voyez.
Jacques Audiard qui plutôt truste le haut de nos classements à chaque fois qu'il fait chaque film, hein. Enfin, chaque film, en tout cas cette décennie là il est
souvent
plutôt au claxé, quoi.
Effectivement, ouais. Sur mes lèvres, c'était même son c'est pas son premier film, mais c'est l'un de ses tout premiers, parce que il avait fait, attends, est-ce qu'il en avait fait d'autres avant?
Il y avait un héros très discret,
c'est ça, voilà.
Et il y avait Regarde les hommes tromber.
Ok, donc on est quand même effectivement dans le début de sa carrière, mais c'est vrai qu'il y avait...
On est early.
On est early, effectivement. Donc Sur mes lèvres, c'est un polar. À l'époque où Jacques Audiard faisait encore des polars, puisqu'aujourd'hui il a élargi son spectre. Un polar avec Emmanuel DeVos et Vincent Cassel. Et on suit Emmanuel DeVos qui est une secrétaire dans une agence immobilière ou un truc comme ça, qui est un petit peu brimée par ses collègues et qui vit une vie un peu triste, qui en plus est sourde. Et qui va faire la...
Alors, on dit malentendant, excuse-moi. Là, sur ce elle est malentendante.
Bon, elle est malentendante, et du coup, elle va croiser... elle va croiser le chemin d'un petit voyou joué par Vincent Cassel. Et en fait, en gros, ils vont se rapprocher l'un l'autre, et de cette relation va naître également un braquage qui va les impliquer tous les deux de différentes façons. Et donc on va suivre un peu l'évolution de cette relation, et évidemment la particularité physique du handicap du personnage d'Emmanuel DeVos va être utilisé d'une certaine façon pour permettre le braquage.
On peut révéler un peu ce qui va être la particularité. Sur mes lèvres l'indique. Alors d'abord,
bah oui, toujours Audiard. Elle a une faculté à lire sur les lèvres.
Voilà, elle a une faculté. Et il faut le dire avec Audiard, le sens du titre quand même. Ça, il y a toujours un truc. De battre mon cœur s'est arrêté, un prophète, tout ça, c'est des titres qui fonctionnent à fond les ballons. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, ça fonctionne. Et quand t'as un titre comme Sur mes lèvres, tu te dis qu'est-ce qui se passe dans le film, quoi. T'as vraiment. J'étais scotché rien qu'au titre. Et en fait, c'est un film de. Peut-être de braco, je sais pas comment tu.
Ouais, mais c'est un.
C'est un heist, en fait.
C'est effectivement. C'est un polar vraiment dans le sens le plus noble du terme, puisqu'on va suivre, voilà, ces deux personnages qui vont s'enfoncer. Enfin, lui, il est déjà dans la délinquance, mais elle, en fait, elle va être un peu le pendant du public, séduite par le côté vilain garçon et le côté interdit. Surtout que c'est un personnage rejeté par son entourage par ailleurs. Et on va effectivement se basculer. De cette fascination-là à l'exécution pur et simple d'un braco en fait, d'un braquage, et il va y avoir cette espèce d'ambiguïté dans la relation, puisque la particularité d'Emmanuel De Vos de pouvoir lire sur les lèvres, faculté qu'elle a apprise puisqu'elle est malentendante, va être utilisée par le personnage de Vincent Cassel, et en même temps il a malgré tout, au-delà de son utilité pour le braco, il a une certaine sincérité des sentiments aussi qui va commencer à se développer, et c'est cette tension que le film va explorer.
C'est un peu, il y a un peu de ce côté, un peu tous ces films un peu de braquage, un peu comme Bound, si tu te souviens.
Oui.
C'est quand même deux êtres qui ont un objectif, qui se trouvent un objectif commun, mais qui un peu apprennent à vivre ensemble et se découvrent en fait.
C'est ça.
Je trouve ça assez charmant.
Voilà, c'est ça complètement. C'est des laissés pour compte, chacun d'une façon différente, qui à un moment donné vont trouver dans la solitude et la détresse de l'autre, quelque chose qui va les accrocher et qui va finalement quelque part les pousser à sortir, à dépasser leurs conditions en fait, puisque le fait de faire un braquage et donc de remporter potentiellement l'argent, c'est aussi une façon pour chacun d'entre eux de s'extirper de leur vie un peu médiocre, et d'avoir un avenir meilleur ensemble.
Et on peut signaler que dans les seconds rôles, il y a Olivier Gourmet, qui commence à se faire un nom. Et,
oui,
et c'est vrai. Il y a un truc qui est fou avec Olivier Gourmet, c'est qu'il n'a pas Géchant.
C'est vrai.
Le même.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Le même. Et il y a aussi un peu notre idole des années 90, qui... Le film est des années 2000, hein, déjà. Mais il faut que je mentionne, à chaque fois qu'elle est dans un film, je me fais une mention spéciale pour Olivia Bonamy.
Ah oui.
On l'embrasse où qu'elle soit.
C'est ça, exactement. Si elle nous écoute.
Notre idole des années 2000. Et c'est un film qui... Alors, aujourd'hui, Audiard, si ce film ressortait aujourd'hui, enfin, dans un monde alternatif où ce film sortirait en 2026 et que Audiard le présenterait, c'est un film qui prendrait plein de César de ouf. Parce que maintenant, Audiard, c'est un peu attendu qu'il ait les Césars, en fait, maintenant. Il est le mec qui...
C'est le troisième frère d'Ardenne, mais voilà, tu vois.
Voilà, c'est un peu
en termes de récompense.
Non, en parlant d'Ardenne, tu sais, quand je vois Olivier Gourmet, je me dis, ah, merci, c'est
oui,
les Ardennes, hein, qui l'ont
bah, bien sûr. Bah, oui.
Alors que Vincent Cassel, c'est plutôt Courtrage-Mais. Tu vois, c'est chacun son école. Et donc, c'est Emmanuel De Vos qui gagne le César de la meilleure comédienne. Et le meilleur scénario, donc, qui est attribué à... Qui est un peu le César en chocolat, je trouve, le meilleur scénario, parce que... Je sais pas, tant qu'à faire, tu donnes le meilleur film, ou tu vois.
Ah bah, après,
donc, c'est qui est attribué à Jacques Audiard et Tonino Benacquista, qui est co-scénariste, et qui est un peu la team de Battre mon cœur,
c'est arrêté. C'est un peu, tu parles de ça, mais moi, c'est plus que le Oscar du meilleur scénario, c'est Oscar de la meilleure réalisation ou de la meilleure mise en scène, tu vois, genre... Tu vois, je sais pas, tu fais un film à un moment donné. Tu sais, c'est toujours bizarre, le genre, t'as la palme d'or, mais t'as pas la palme du meilleur scénario, ni la palme de la meilleure mise en scène. Ok, alors du coup, t'as pas le meilleur scénario, t'as pas la meilleure mise en scène, mais t'es le meilleur film. Comment c'est possible? Tu vois, à un moment donné, comment c'est possible?
Et il a eu je vois qu'il en a eu trois. Il a eu aussi le meilleur son, ce qui est un peu paradoxe, mais en fait, il te fait ressentir assez bien en fait le fait d'être malentendant.
Exactement. Enfin, pour le coup, le travail sur le son et le justement les sons atténués, les longueurs d'onde qui sont bloquées ou étouffées dues au handicap du personnage de Vos joue une. Enfin, c'est quelque chose qui a une place vraiment très importante dans la mise en scène et que le film l'utilise vraiment à propos. Donc effectivement, l'Oscar du meilleur son est pas. Le César du meilleur son est mérité, quoi.
C'est pas la meilleure musique, hein. C'est Alexandre Desplat, avant qu'il en ait 8 milliards à chaque fois.
Ça, c'est pareil.
est-ce que tu aimes ce film, et est-ce que tu le classerais même dans la longue film de Audiard?
Eh ben, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film que j'aime beaucoup et que je place vraiment haut dans sa filmographie. Ne serait-ce que parce que, contrairement à, on va dire, aux dires un peu, alors en sachant que j'ai pas vu Emilia Pérez, je mets ce petit bémol, et j'ai pas vu Dipan non plus. Voilà, c'est les deux que j'ai pas vu. Mais
il te reste encore des chouettes films à voir.
Un chouette film. On dira pas lequel. Le truc, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'aime bien dans Sur mes lèvres, c'est que c'est un film assez simple dans son postulat, qui se concentre sur un dispositif de mise en scène assez réduit, dans le sens où il y a deux idées assez fortes et il se concentre là-dessus, il les développe bien. Et de cette simplicité, je trouve qu'il arrive à faire quelque chose de vraiment hyper fort, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté de film de genre au sens noble. Alors que sur les films un peu plus tardifs, etc., je pense aux Frères Sisters, et puis même de Rouillédos, il y a ce côté on veut brasser des grands thèmes universels. Enfin, tu sais, il y avait une espèce de surconscience qu'il a eu après Un Prophète, je trouve. Où il a cette espèce de surconscience d'être un grand artiste qui doit toucher les foules, etc. Et ses films commencent à être plus, on va dire, c'est moins spontané, c'est moins. Enfin, il y a un truc où tu sens que voilà, il a franchi ce cap-là, c'est une bête de festival, quoi.
Je vois ce que tu veux dire complètement. C'est que en fait, à cette époque-là, et je pense que c'est au moins jusqu'à deux battes, mon cœur s'est arrêté.
Il
faisait des films pour faire des films en fonction de ses affinités, en fonction
du sujet, de voilà. Ouais.
Et après, il a voulu faire son grand œuvre. Et
ouais, complètement,
tu
ouais.
sens que les films d'après, peut-être un prophète.
Non, un prophète.
Je pense qu'il en est conscient.
Je pense qu'un prophète, il en est conscient, mais je pense qu'un prophète, c'est vraiment le film du basculement. C'est-à-dire que c'est celui qui à la fois plonge dans ce côté bête de festival et à la fois garde quand même ses racines assez simples, voilà, du film de genre à la française, en fait. Et voilà. Et moi, c'est pour ça que moi, Sur mes lèvres, ça reste un de mes audiards préférés, quoi.
Alors moi c'est middle. C'est le top pour moi, c'est De Battre, Un Prophète. Et alors moi, alors Hot Tech, est-ce que tu me permets une prise chaude? Je mets Olympiade dans le top tiers. Et personne ne le met dans le top tiers parce que il est passé un peu inaperçu, mais je trouve que c'est un de ses meilleurs films, en fait. Et par contre, le low tiers, c'est le dernier, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, on verra. Ouais. Tu sais quoi, un jour, on fera Super Audiard Battle. Hein, écoute,
on fera peut-être un Super Audiard Battle, effectivement.
C'est un réalisateur, en tout cas, qui mérite qu'on s'intéresse à son œuvre.
Tout à fait.
Stéphane, où est-ce qu'on va le classer?
Ça va assez haut pour moi. Ça va assez haut.
Ça va.
Alors, film sur le son, pour moi, ça reste quand même moins bien que La Vie des Autres.
Oui, mais bon.
Voilà.
Ouais. Mais je regarde les polars. Est-ce que par rapport à Eastern Promises, je pense que Eastern Promises est un meilleur film quand même.
Je pense aussi.
Les Promesses de l'ombre.
Oui, les Promesses de l'ombre, il est là. Ok, ouais. Mais par rapport à The Dark Knight, tu vois, We on the Night, non, c'est quand même moins bien. Même c'est moins bien que La 25e Heure.
Ouais, mais on est dans ces eaux-là. Je pense qu'on ira.
Mais on n'est pas très loin, ouais, je suis d'accord.
Je pense que, tu sais quoi, je me lance. Entre Grizzly Man et Lost in La Mancha, ça lui fait 64e.
Moi, j'aurais dit entre Munich et Lettre et Iwo Jima.
Bah écoute, d'accord, banco. Ça reste quand même deux très bons films, quand même.
Ah oui, non, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Là, globalement, on est quand même dans le top tiers. Donc.
Ouais, il a battu quand même. Selon le marbre, bien sûr, il est au-dessus de Clint Eastwood, Saint Clint.
Oui, voilà. Donc. Franchement,
on a classé Iwo Jima, mais est-ce qu'on a classé l'autre?
Mémoire de nos pères.
Père, je vois pas rien en père.
Je vois Mémoire d'une geisha, mais pas Mémoire de nos pères, ce qui n'est pas.
Non, la même chose. Non, je crois qu'on n'a pas fait Mémoire de nos pères. Écoute, premier film de cette liste, le deuxième, puisqu'on est dans une liste Nepo Babies.
Oui.
c'est un film qui s'appelle Truand de Frédéric Schoendorfer.
Ah oui.
Qui est le fils de Pierre Schoendorfer.
Donc Truand, alors attends, que je les confonde pas, c'est celui avec Benoît Magimel et Philippe Cobert, c'est ça ?
Exactement. Alors, est-ce que Benoît Magimel n'est pas cancel malgré le fait qu'il ait renversé quelqu'un avec une voiture sous cocaïne ? Je crois que c'est un accident. On peut dire que c'est un accident.
Ce sont des choses qui arrivent. Voilà.
Mais par contre, Cobert, non. Cobert, ah bah... je pense que Cobert... Tu sais quoi, j'ai pas envie de googler Cobert, je vais trouver sur des trucs sordides. Mais tu sais quoi, il a l'air d'être un sale type.
On est d'accord que Truand, c'est ce film-là avec la fameuse tirade de se faire beurrer l'arrêt.
Exactement, exactement.
c'est ce film-là.
Ah oui, je crois que c'est ce film-là. C'est un film sur sur les bandits. Et je pense que Olivier Marchal n'aurait pas fait son propre cinéma sans avoir participé à ce film.
Mais je crois qu'il joue dedans, en plus, Olivier Marchal.
Mais oui, Olivier Marchal joue dedans. Et ouais, je crois que, tu sais quoi, il devait être aux aguets. Il s'est dit, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais il avait déjà réalisé, je suis persuadé. Il avait déjà réalisé.
Peut-être, oui, il avait déjà... Ouais. Putain, et il y a Béatrice Dalle aussi dedans, c'est vrai. vraiment, oui. le casting de la subtilité, quand même.
Ah ouais, non, attends. Marchal, il avait déjà tourné Gangster, 36 quais des offers. Il était en train de préparer MR73. Tu te souviens de MR73?
Oh, je m'en souviens, ouais.
Oh, c'est dur.
Oh là, c'est chaud. Je crois que MR73, à mon sens, c'est le pire Olivier Marchal parce que c'est celui où il est encore, il a encore le crédit de 36 et compagnie, et il se croit être encore cet auteur-là, et donc il fait un film full premier degré, etc. Enfin, c'est atroce. Et à minima, ce qu'il fait par la suite, c'est plus rigolo débile, en fait, tu vois.
Ouais.
Genre Bronx, Bastion 36, enfin voilà, c'est...
Ouais, mais MR73, franchement, il y a un truc de... Si c'était tourné en Corée, on pourrait croire que, tu sais, c'est des commissariats de Pyongyang, quoi. C'est genre, c'est un truc stylistique. Il aurait pu être le Naung Jin français.
Je trouve ça dégueulasse pour le cinéma coréen, mais en fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est exactement ça.
High five, je suis tellement heureux de faire cet épisode avec toi, frérot.
Non, mais c'est vrai, en fait, quand il réfléchit, la séquence de Daniel Auteuil triste sous la pluie avec son flingue, enfin, littéralement, il y a écrit Corée dessus, quoi.
Envoyez-nous une liste, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de films avec Bert. Envoyez-le nous, on va se le remater, on va être bien. Et donc, Cobert joue un méchant, évidemment, évidemment. Et c'est le roi de la mafia. Et c'est Magimel qui rentre au fur et à mesure. Non, il rentre en conflit avec lui. Il rentre en conflit. Non, en fait, il lui accorde. Je crois qu'il rentre dans son cercle, mais au fur et à mesure, il se dit, mais faut que je me méfie de ce petit jeune. Puisqu'à l'époque, rappelons-le, Magimel, il a une trentaine.
Oui, il a 30-35 ans, enfin, oui, quelque chose comme ça. Ouais.
Mais il n'imite pas d'accent déjà dans celui-là, c'est déjà bien.
c'est déjà pas mal.
Je m'imagine que Frédéric Schoendorfer qui a dû lui dire, s'il te plaît, vas-y mollo. Ouais.
et je crois qu'on peut le dire, vous le pressentiez un petit peu, mais le film est quand même assez calamiteux. C'est
pas MR60. 73, 75, ça y est, j'ai déjà oublié. Mais, 73. Ouais. Mais honnêtement, si tu veux, quand des films comme... je pense à ce remake de Scorsese qui existe, tu vois, sur le fonctionnement intérieur de ce que le corps de police et le corps des mafieux, et tu vois, le mec qui... Tu vois, les conflits entre mafieux. Mais quand il y a ce genre de film qui existe, et celui-là qui est terriblement premier degré, mais alors, il est premier degré à raison, parce que c'est du banditisme et tout, ils essayent de faire ça sérieux. Mais il y a Cobert, il joue comme au théâtre, quoi. C'est catastrophique. Ah,
c'est catastrophique.
Catastrophique. Et je dis pas ça parce qu'il est cancel de ouf et tout.
Même Magimel, il est.
Magimel est pas connu pour son bon jeu.
Sa subtilité. Et puis Béatrice, enfin, c'est pareil, ils sont tous à 100%, quoi, on va dire.
Garde-en sous la pédale pour le prochain film.
Oh purée. J'ai tellement peur. Mais il y a un petit côté fleuve noir, en fait, quand même.
C'est du proto-fleuve noir.
C'est du proto-fleuve noir.
Mais Cobert, en fait, tu as raison. Quand tu vois Cobert dans ce film-là, tu te dis, Ah mais ouais, en fait, c'est il écrit les pages de Fleuve Noir, en fait.
Ah mais complètement.
Il écrit le mythique Fleuve Noir de Vincent Cassel, quoi.
De Vincent Cassel, et voilà, c'est à travers ces films-là que va se construire, se creuser le sillon, si ce n'est le lit qui fera de Fleuve Noir, voilà, fleuve, un lit, comparaison à opportune. Et voilà, on est dans ce même genre, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc full premier degré, qui se veut adulte, qui se veut choquant, qui se veut hors des conventions, machin,
mais qui se veut aussi proche, parce que c'est une fine analyse, parce que en fait c'est pas les vrais noms qui ont été utilisés, mais ils s'inspirent aussi de la vie de vrais mafiosos, donc c'est les mafias, je sais plus si c'est corse, tunisien ou quoi que ce soit, mais genre c'est vraiment, ça essaye d'être au cœur de l'action, quoi. Enfin, au cœur.
Oui,
de...
et puis on est effectivement dans le sillage du renouveau du polar par Olivier Marchal avec 36 Quai des Orfèvres, mais sauf qu'effectivement le film est bien plus proche du gangster de Olivier Marchal, qui est son film précédent, son premier long métrage, qui pareil était outré dans tous les sens du terme, et là c'est ça, c'est qu'en fait ils font un film qui est tellement over the top, parce qu'ils essaient de, je sais pas, ils essaient de s'approprier des codes américains ou même asiatiques, quoi que ce soit, sauf que tout est branlant, tout est soit trop, soit trop, soit pas assez, ou soit trop plat. Enfin, faut dire que Schindlerfer, je suis désolé, mais c'est pas un grand metteur en scène non plus, tu vois, je veux dire. À un moment donné, quand t'es Kim Ji-woon, tu peux te permettre de faire des situations et des personnages over the top, parce que, en fait, avec ta caméra, t'arrives à capter des images que personne ne capte.
Ça reste solide, quoi.
Et y a un truc qui est absolument fou dans la mise en scène. Schindlerfer, jamais tu vas dire sa mise en scène est folle. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Et c'est ça, le problème du film, c'est qu'en fait, le côté... Il y a ce côté sentencieux, en fait. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté sentencieux qui fait que t'y crois jamais, en fait. T'y crois jamais, et du coup, ça devient juste grotesque et même parfois hyper drôle. Enfin, je veux dire, il y a des scènes à mourir de rire. Les dialogues sont très, très mauvais. Enfin, voilà, on est aux portes du nanar, quoi, avec Truand, quoi.
Alors, gardons sous la pédale, on va classer Truand, il n'y a pas besoin d'en rajouter.
Oui, d'en dire beaucoup plus, ouais.
Ouais, mais si je voulais en rajouter, je viens de voir que dans les petits rôles, il y a quand même Thomas Sisley, qui, je ne sais pas ce qu'il jouait. Évidemment, un mafieux.
Écoute, peut-être qu'il s'entraîne pour l'Argo Vinch, on ne sait pas.
Ouais. Ah oui, c'est prêt, l'Argo Vinch. Je suis en train de essayer de regarder un film de... C'est mauvais, hein, quoi qu'il en soit, mais... Putain, un long dimanche de fiançailles, il est très très bas chez nous. Hein.
Bah oui, bon, il est pas très très bien non plus.
Non, c'est vrai. Je suis en train de regarder...
Moi, je suis pas...
Par rapport à Banlieue 13.
Attends, Banlieue 13, on est où, Banlieue 13?
On est 332e.
Tu sais quoi, fais-en ce que tu veux.
Non, j'ai besoin de toi. On est la marre, moi.
Je pense que j'ai plus d'affection pour Banlieue 13 que pour Truand, en fait.
Ben ouais, c'est, je pense aussi.
Je pense que j'ai quand même beaucoup plus d'affection pour Banlieue 13 que pour Truand, ouais.
Mais c'est pas Carlitos Way non plus.
Ah oui, Carlitos Way 2, c'est vrai qu'on l'a fait. Reste pour. C'est vrai qu'on l'a...
Je pense que c'est mieux qu'Electra.
C'est mieux que 3-0, mieux qu'Electra. C'est mieux que Samouraï. Et par contre, c'est moins bien que Daredevil.
Ok, hop, vendu. Hop. Entre Daredevil et Samouraï. Je sais pas où on va classer le suivant. En admettant que tu l'aies vu, mais tu sais quoi, je croisse les doigts. Je croisse les doigts pour que tu l'aies vu.
On a vraiment creusé le fond du...
Là, on fait de l'alpha et l'oméga, mais prépare-toi. Le troisième film, c'est un film qui s'appelle Le pharmacien de garde de Jean Weber. Alors, Jean Weber est le fils de Francis.
Alors, Le pharmacien de garde, full disclosure, c'est un film qui a sa fiche sur Nanarland. Voilà. Sachez-le.
Alors, tu sais quoi, j'ai appris des trucs incroyables sur la fiche de Netherlands. Parce que du coup, je me suis dit, merde, c'était bien ça, oui, effectivement. C'est grand.
C'est. Alors, le pharmacien de garde, c'est une sorte de... Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le film s'inscrit dans la... Comment ça s'appelle ? Dans l'espèce de mouvance qu'il y a eu dans le cinéma français post-Seven, en fait.
Ah, c'est ça, putain, c'est vraiment ça.
Et parce que tout le monde voulait faire son film de serial killer. Voilà, parce que Seven, c'est génial, devons-nous le rappeler. Et tout le monde s'est mis à faire son film de serial killer. Et le cinéma français s'est engouffré dans la brèche. Il y a eu le film avec Anconina, je ne sais plus comment il s'appelle... qui était à mourir de rire. Il y a eu le truc avec Christophe Lambert. Enfin, il y en a eu plein. Il y en a même eu avec Morgan Freeman. Christophe Lambert, la nuit d'Anne-Lunard. Il y avait un extrait où tu le voyais faire 2 plus 2.
Le Anconina, c'est Six Pack.
Six Pack, voilà. Putain, Six Pack.
C'est du bon.
C'est un très bon cinéma, ça. Bref, et du coup, Pharmacien de Garde s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire qu'on va faire un thriller autour d'une histoire de serial killer, un thriller un peu poisseux, des trucs dans cette idée-là. Le film bon, évidemment. Je vais vous divulguer un petit peu l'issue de cette discussion, mais Pharmacien de Garde ne se hisse pas au niveau de Seven.
Je pense que Seven a quelques atouts dans sa poche. Pourtant, il y a un comédien très très cancel, hein, mais non. Mais...
Voilà, mais désolé pour ceux qui espéraient, mais c'est pas Seven à la française, mais l'histoire c'est menée par Vincent Pérez, par le duo Vincent Pérez et Guillaume Depardieu. Qui mène l'enquête sur des meurtres très étranges faits avec c'est des poisons, c'est ça,
le truc
non toxiques, c'est ça,
c'est qu'il trouve le moyen toujours d'empoisonner les gens puisque le mec est pharmacien, c'est ça,
oui,
le
c'est
twist.
Ça. Ouais.
Donc il connaît les manières de... Oh putain, je vois l'affiche, il y a marqué « Ce qu'il fait la nuit n'est pas remboursé par la sécu ». Putain, mais et même, c'est même la baseline est nulle à chier.
Moi, je trouve que c'est une excellente tagline, c'est absolument parfaite.
Oh là là, et alors je viens de me souvenir de... Oh là là, j'ai des flashs de ce film. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que on n'a jamais vu un assemblage de tant de comédiens qui vont marquer le cinéma français ou qui ont marqué le cinéma français au fur et à mesure, puisqu'il y a Vincent Pérez donc, qui joue le serial killer. Il y a Guillaume Depardieu, dont c'est pas loin d'être le plus mauvais rôle.
C'est vrai. C'est vrai.
Mais surtout, il y a Kad Merad, il y a Yang Kad Merad quand même, qui joue je crois que c'est un médecin légiste. Et il y a Alice Taglioni qui meurt. Alors, tu parlais de poison. Tu sais, il lui passe, je crois qu'il fait un trou. Il fait un trou dans une porte et il lui balance le poison au visage, qui est une espèce, tu penses que c'est de la cocaïne, et en fait non, c'est un poison qui vient des îles ou des tropiques, et clac, elle devient... Et tu la reconnais plus, Alice Taglioni.
Ah oui, exact.
On dirait un champignon à la fin, ou un truc comme ça.
Elle ressemble à Jabba the Hutt à la fin, ouais.
Ouais, et il y a Atman Khelif, il y a Rochelle Redfield. Est-ce que Rochelle Redfield, c'est un nom qui te parle ?
Alors, non, comme ça ne me dit rien.
Et si je te dis, celle qui a été amoureuse de Cri-Cri d'amour.
Bien sûr. Mais oui.
Il y a vraiment, c'est le... Franchement, il y a aucun truc, il y a rien qui est à faire, et pourtant, ce film, il y va avec la puissance de 1000 soleils. Et si tu vois, il est dans le trailer, Pascal Légitimus joue un travesti.
C'est vrai. Et d'ailleurs, tu parles de Rochelle Redfield. Maintenant, effectivement, je remets, c'est elle qui joue la victime avec le sourire, c'est ça ?
Le Joker, c'est elle.
Le Joker,
c'est
ouais. Le Joker.
Je deviens le Joker. et le truc avec Pascal Légitimus, c'est qu'il joue un travesti. Et il le joue... Alors, c'est ça qui est fou, c'est qu'il le joue exactement comme dans La Télé des Inconnus.
Oui.
Quand il jouait un rôle féminin. Il faut savoir, ils sont trois comédiens principaux. Hein. Il y avait Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon. Et donc, du coup, souvent, pas toujours, mais souvent, Pascal Légitimus jouait les filles. Il jouait le... Il jouait la... Je sais pas, mais je me souviens dans... quand il faisait les... même dans ATLS, je crois qu'il joue la fille. Il joue toujours un personnage féminin, un peu gracieux, et il le joue exactement pareil que dans la télé des inconnus.
C'est vrai.
Ça n'aide pas, mais par contre, c'est ça qu'on voit qu'il y avait quelque chose de qu'il est un beau comédien, quoi.
Oui, mais en fait, lui, c'est-à-dire qu'il y a un énorme décalage parce que effectivement, on voit le Pascal Légitimus de l'époque dans La Tête des Inconnus, mais en fait, c'est pas loin d'être le meilleur rôle du film.
Ah, de loin, de loin.
De très loin, même, en fait.
Et c'est comme s'il avait compris. Est-ce que tu te souviens du mec qui meurt par tabac?
Avec l'espèce de passoire sur la bouche, là
Ouais. Oui. Genre, oui, ok, t'es sûr que ça marche, ce truc?
Je sais pas. En tout cas, c'est rigolo.
Parce que franchement, tu vas sur le périph', ça marche pareil. Hein. Et là où j'ai appris un truc grâce à Nana Land, puisque j'ai été vérifié qu'il y a vraiment une fiche pour Nana Land, c'est que Didier Gustin a doublé Guillaume. Parce que, le mec, il imitait Depardieu. Mais en fait, on lui demandait souvent de faire des voix d'hommes politiques. Donc, il faisait Jacques Chirac et tout ça pour, tu sais, dans le film de Carte Zéro. Mm-hmm. Ouais. Et là, en l'occurrence, parce que c'était juste avant la grosse maladie de Guillaume Depardieu. Et Guillaume Depardieu était malade. Donc, du coup, on lui a demandé de redoubler Guillaume Depardieu, quoi.
Ok, d'accord.
Et maintenant, il peut le dire parce qu'il y a prescription. Mais fun fact incroyable sur la création fou, de ce film. Quoi. Ouais. Franchement, regardez au moins le trailer. C'est incroyable. Franchement, le pharmacien de garde, j'allais dire pharmacien de nuit, c'est ouf. C'est ouf. Est-ce que tu aimes ce film?
Ouf.
Tu sais quoi, je trouve ça, à certains égards, je trouve ça mieux que Truand.
Disons que
la portée nanarde est vraiment.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je trouve que il y a un côté plus drôle que dans Truand. Et je suis d'accord que pour le coup, ça peut faire un vrai nanar. Là où Truand est aux portes, mais en fait, voilà, est juste très très mauvais. Donc, ça m'est plus sympathique, on va dire.
Voilà. Je pense que, tu vois, je regarde la liste. Alors, toi, on est d'accord, on va le classer.
Oui.
Tu m'as pas dit ce que t'en pensais, mais je lis en
tout. Non, mais c'est
non, vraiment.
C'est d'autant plus comment ça s'appelle. C'est d'autant plus raté que en matière de mise en scène, il y a vraiment zéro effort. C'est-à-dire que tu vois un film genre comme Truand qui essaye de singer Olivier Marshall, qui lui-même essaye de singer les films américains. Là, c'est du France 3 Région, quoi, tu vois. C'est vraiment.
Ah ouais, et alors, il y a un truc, c'est que quand Vincent Pérez essaye de jouer sérieusement, puisque en fait, si tu regardes, en fait, je pense que, on en parlait, Dexter, je pense qu'il a regardé ça, et il s'est dit, je peux le faire en mieux. Parce que finalement, c'est aussi un serial killer, hein, qui émet une
sûr.
Méthodologie et tout ça, enfin genre,
c'est ça,
et qui
tout à fait.
Et qui a un sourire narquois comme là.
C'est ça.
Bon, on va le classer. Allez, classons-le.
Oui, on peut le mettre au-dessus de Truand, ça me dérange pas trop.
Moi, je te propose un truc entre Wicker Man et Da Vinci Code.
Oui, ok, très bien.
Ça le laisse quand même sous Star Wars épisode 2, hein, tu vois.
Oui, c'est ça. Mention honorable.
T'as bien tenté. c'est le pharmacien de garde ou la pharmacie
oui,
de garde?
Le pharmacien de garde, je pense que. En France, on utilise des articles, donc a priori.
Hop là, j'ai dit pharmacien de nuit, comme si c'était genre cargo de nuit.
Et oui, cargo de nuit, ouais.
Et ben, on va remercier Mickaël pour son excellente liste.
Merci pour ton excellente liste, effectivement.
Et là, Stéphane, je sais que ton temps est compté, mais je peux te laisser le choix entre une... J'ai fait un devoir de vacances, figure-toi.
Ok.
Ou une autre liste.
On peut faire une autre liste.
Et on peut faire une autre liste. Je pense qu'on peut faire une autre liste. C'est une liste qui nous est envoyée par Sylvain du podcast Animédia.
Merci Sylvain d'Animédia.
Et alors, c'est... attention, c'est spécial Japanime. Je ne sais pas si tu as tout vu.
Curieusement. Eh bien, écoute, on va voir.
Why not? Et c'est une liste qui s'appelle L'IA, Before It Was Not Cool, entre parenthèses, référence évidemment à Evangelion.
Évidemment. Oui.
Et le premier film de cette liste, c'est un film de 2009. C'est un film qui s'appelle Summer Wars de Mamoru Hosoda.
Je l'ai malheureusement jamais vu. Il est sur ma liste.
Et c'est vrai?
Ouais, il est sur ma liste de... sur ma liste, je dois le voir. En fait, je pense que je... Pas je pense, c'est... J'attends de le voir avec ma fille. Mais à chaque fois, on trouve un autre truc à regarder, donc...
Bah, tu sais quoi? En plus, celui-là, c'est vraiment un super film.
Mais oui, je sais.
Enfin, à regarder avec son kid, ouais.
En tout cas, on m'avait... Enfin, je connais le film de réputation et je connais les gens qui me l'ont déjà recommandé plusieurs fois. Donc, c'est pour ça qu'il est sur ma liste, mais...
Et puis, c'est un early Mamoru Hosoda, donc c'est un peu... Le chien qui marche à côté de moi, c'est un gage de qualité quand même.
Donc oui, bah, malheureusement je ne l'ai pas vu, mais j'en regrette.
Non, mais il n'y a pas de regret, ça veut dire que tu vas passer une bonne après-midi ou une bonne soirée avec ta fille à regarder
c'est ça.
Et c'est un très chouette film.
Oui, pareil, donc je n'en doute pas.
Le deuxième film est une anthologie, un omnibus comme on dit au Japon, américano-japonaise, qui s'appelle Animatrix.
Ah bah oui, j'ai vu Animatrix.
Bah, on a tous vu Animatrix.
On a tous vu Animatrix, bah oui,
parce,
oui, oui.
Parce que c'est le seul produit dérivé qui était sorti à ce moment-là, quoi.
Bah, disons qu'en fait, c'est effectivement, le Animatrix est sorti au bon moment, c'est-à-dire qu'il y avait le phénomène Matrix, on en voulait plus. Bon, alors malheureusement, on a eu Matrix 2 et 3, bon, c'est pas de bol, hein, mais... voilà, be careful what we wish for. Et en même temps on était à la période où justement le monde, et notamment le monde occidental, s'ouvrait à la nouvelle vague en fait de l'animation japonaise avec Evangelion, avec Cowboy Bebop, avec Satoshi Kon, etc. Et donc là, Animatrix arrive plus ou moins dans cette fenêtre là et nous propose finalement le meilleur des deux mondes, quoi, à tel point que il y a même Shinichiro Watanabe, par exemple, le papa de Cowboy Bebop, qui fait un des segments, voilà, enfin, donc forcément pour les gens de nos générations, à ce moment là c'était impensable de passer à côté d'Animatrix, quoi.
C'est fou quand même d'avoir un peu la vista, mais ça, c'est vraiment les Wachowski, ça, elle savait vraiment faire, quoi. C'est-à-dire de réunir quand même la crème des crèmes de l'animation qui s'apparente à leur œuvre. C'est-à-dire, t'as Kawajiri quand même. Et Kawajiri, est-ce qu'on a classé Ninja Scroll? On a classé Ninja Scroll, je
pense. Vous avez classé Ninja Scroll, bien sûr. Ouais.
Extraordinaire film de Ninja. T'as quand même Peter Chung. Alors, Peter Chung, c'est un peu particulier parce que c'est un style. Je sais pas si vous avez déjà vu Aeon Flux, quoi, mais c'est je pense que c'est Aeon Flux, là, la série dont je pense qui est la plus représentative, oui, de son style.
Bah, surtout là c'est celle en plus qui, enfin, visuellement, le rapprochement et voilà, les techniques d'animation sont assez proches de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire là, quoi.
Et aussi dans le, il y a Koji Morimoto. Alors Koji Morimoto est très connu parce qu'il a travaillé sur, et c'était un, je crois qu'il était directeur d'animation sur Akira, ou en tout cas il était bien, il était haut dans le, enfin, attends, excuse-moi, je vais vérifier. Oui, il est assistant directeur d'animation, donc c'est quand même un mec qui était haut placé dans Akira et qui quand même a un très 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 gros staff. Il a travaillé dans énormément de, dans des grands grands films d'animation des années 90. Et 2000, et souvent les gens connaissent de Koji Morimoto un clip qu'il avait fait pour un DJ, j'ai oublié comment il s'appelle, le DJ.
DJ Bernard, tous les samedis aux prises uniques.
Merde, c'était comment il s'appelle? C'est Kenichi, il faisait extra de Kenichi. Et je sais parce qu'il passait tout le temps sur MCM et MTV, surtout MCM. Et je le regardais avec passion parce que c'était vraiment un peu comme si j'avais un petit peu d'Akira qui se prolongeait. Parce que vraiment, il a ce truc de... Bah, il canalise vraiment l'esthétique Akira comme personne. En même temps, voilà, c'était un des grands, grands potes de Otomo, quoi. Et qui y a d'autres dans le staff? Surtout, il y a un truc assez étonnant, c'est qu'ils ont réussi à avoir Square Enix à l'époque où ils avaient un studio d'animation, en fait.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, tout le monde connaît leur film qu'ils ont réalisé, qui s'appelle le Final Fantasy...
Creature Within.
Spirit Within.
Spirit Within, oui, c'était ça, ouais, Spirit Within, ouais.
Qui a été un flop, mais qui n'est pas dénué d'intérêt et qui, en plus, s'est bonifié avec le temps, parce que les gens ont fait... Ah, mais en fait, c'était vraiment pas mal. C'était... Qui a coûté un fric fou et qui a failli faire fermer Squaresoft tout entier. Et donc, ils ont... ils ont fait un court-métrage. Et puis tu l'as dit, Shinichiro Watanabe, est-ce qu'il y a besoin de... Je pense que si vous nous écoutez, il y a des chances que vous ayez vu soit Cowboy Bebop, soit une autre de ses œuvres. Samurai Champloo, peut-être la plus...
Oui, la deuxième, voilà. la plus connue, effectivement. Ouais.
Voilà, c'est un grand réalisateur d'animation. J'ai pas vu Lazarus, qui est sa dernière en date, mais voilà. Et par contre, évidemment, on est dans un film à sketch, et je pourrais même pas te les réciter, parce qu'il y en a beaucoup. Hein.
Il y en a 9 dans mon souvenir, il y en a beaucoup. Moi, effectivement, c'est pareil, je me souviens pas de tous, mais par contre, je me souviens que c'est un peu inégal, en fait, parce qu'il y en a certains qui sont... techniquement hyper intéressant, alors peut-être pour l'époque, parce que à revoir maintenant, parce qu'il y en a, il y en a notamment, je crois que c'est celui de Square Enix avec le côté photoréaliste, etc. Peut-être qu'il a vieilli, bon, à voir, mais qui scénaristiquement est pas hyper intéressant. Disons que l'idée du projet est super. Vraiment, c'est une super idée de permettre à ces artistes de travailler sur cet univers, de les faire cohabiter ensemble, et puis malgré tout de leur apporter aussi ce coup de projecteur supplémentaire. Voilà, c'est quand même, je trouve ça quand même intéressant que des artistes occidentaux puissent mettre en avant des artistes du monde entier, en disant bah tiens, voilà, on ne serait rien sans eux, donc ça c'est assez cool. Mais après, effectivement, voilà, tous les segments ne se valent pas, je trouve. Il y en a,
mais c'est évident pour ce genre de produit. Mais voilà, pour tous les omnibus, même les omnibus légendaires comme celui qui s'appelle Mani Mani Monogatari, j'ai oublié comment il s'appelle en français, Meikyu Monogatari, donc chapeauté par Otomo. Enfin, il y a Robot Carnival aussi, qui est aussi chapeauté en grande partie par Otomo. Tous ces films sont par essence en fonction de nos affinités, mais globalement, je pense qu'il y a quand même eu un moment où ils se sont dit on va donner le meilleur de nous-mêmes pour une création américaine et on va se donner à fond. Il y a vraiment un truc de la Japan vibes avant l'heure, en fait. Ouais. Je pense que tu aimes ou pas Speed Racer, je pense que s'ils n'avaient pas fait ça, il n'y aurait pas l'étape Speed Racer après. C'est-à-dire que, dans le sens où les Wachowski étaient influencés par l'animation japonaise, enfin, je veux dire, on les a tous vus, les trucs qui faisaient les comparatifs entre Ghost in the Shell et Matrix, enfin, tu vois, les trucs, les lettres qui tombent dans eux en vertical alors que c'est horizontal dans un truc, enfin, on l'a tous vu, et c'était une manière pour elle de redonner un peu à l'animation, à tout ce que ça a apporté, et aussi de mettre en main, et aussi de se faire un kiff. Parce que quand tu fais un truc comme Matrix, tu peux te permettre ce genre de choses, quoi, quand t'as fait un film aussi important que Matrix. On a oublié de parler du il y a un court qui est réalisé par Maeda, Makiro Maeda, qui est un génie de l'animation, que t'as dû voir récemment, si t'as vu J-Quacks. Je crois que t'as vu J-Quacks,
oui, en plus. Oui, tout à fait, tout à fait.
Ouais, qui, lui, a quand même... il a touché un peu tout. Enfin, même, il a participé à énormément, énormément de séries. Et en passant, il était animateur sur La Puta, sur... Enfin, tu vois, sur ce genre de film à petit budget, tu vois, donc... Non, sur Nausicaa, enfin, sur les Miyazaki, quoi. C'est vraiment un animateur de génie. Non, bref, je trouve qu'il y a, pour un truc qui a été fait par des Américains, produit par des Américains, par Joel Silver et compagnie, je trouve que le cœur est au bon endroit.
Maintenant, non, mais complètement. En fait,
je ne peux pas te jurer que tout m'intéresse, quoi.
Non, c'est ça, c'est inégal. Globalement, il n'y a rien de mauvais, en fait, dedans. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des trucs plus ou moins intéressants, certains, voilà, plus ou moins intéressants, certains dans le plus sensible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, autant en termes de style d'écriture, que de style graphique, que de style de mise en scène, on a 9 propositions très différentes, en fait. Et je trouve ça intéressant, enfin, je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement cette mythologie explorée de tellement de façons différentes. C'est quelque part aussi un peu moi ce que je préfère finalement dans les comic books. Moi, c'est les arcs principaux, le New 52, etc. Au bout d'un moment, ça finit toujours par tourner en rond, machin. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est quand t'as un auteur qui s'approprie un personnage ou un ensemble de personnages et qui fait son arc de son côté et qui peut vraiment en faire ce qu'il veut. C'est ça, en fait, l'intérêt
du... Warren Ellis prend, je sais plus qui, Moon Knight, tu vois, qui oui. personne ne veut de Moon Knight, et qu'il impose sa propre vision sur un auteur, ou Grant Morrison.
Grant Morrison, voilà, exactement.
Qui faisait ce qui fait ça, et qui apporte sa vision sur quelque chose, mais il faut des gens qui aient de la personnalité.
C'est ça, voilà.
Là, en l'occurrence, la plupart sont scénarisés, peut-être pas, mais il faut que je vérifie avec précision, mais la plupart sont scénarisés par. Par les Wachowski elles-mêmes.
Oui, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, et donc du coup, c'est un peu ça qu'on retrouve, c'est effectivement, c'est. Mais à l'inverse de Star Wars, où à un moment donné, on essaie d'outrefourguer les Skywalker à tout bout de champ, finalement, c'est pas ça qui nous intéresse, quoi. C'est pas faire des trucs à la chaîne. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir finalement un univers qu'on connaît et d'avoir, le regard d'un artiste qui a vraiment son propre regard dessus, quoi. Quitte à faire des sacrilèges, quitte à faire des trucs. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fun, quoi. C'est qu'à un moment donné, effectivement, enfin, ce que se permet Grant Morrison avec Batman, c'est pas la même chose que se permettait Miller avec Batman. Et pourtant, dans les deux cas, il y a des propositions hyper intéressantes. Plus que finalement l'arc où je suis mort mais en fait je suis pas mort, je suis à la retraite puis je reviens, enfin on s'en fout, quoi.
Voilà, c'est des concepts, quoi. C'est comme tu parles de comics, c'est comme pour moi l'avant après House of X, et House of X qui est pour moi un truc, un des comics dont je repense genre au moins une fois par semaine à House of X. Je me suis dit putain, c'est fou qu'un comics m'ait marqué à ce point là parce qu'il avait des idées nouvelles et il apportait une vision différente sur un monde qui était préétabli sans pour autant le dénaturer, mais en apportant un nouvel angle de manière à ce que ça te mindfuck. Je peux pas dire que dans celui-là il y a du mindfuck, parce que tu peux pas plus mindfucker en fait que
Matrix.
Que Matrix. C'est et ça. Genre, et c'est même le problème des suites. Moi je serais, comparé à toi, je suis plus tenté de les sauver parce que je pense qu'individuellement il y a des moments qui sont ouf. Le nombre de fois où je me suis regardé la séquence de poursuite de moto du 2, je la trouve incroyable. Franchement, je trouve que c'est une scène, c'est du cinéma à l'état pur. Et à chaque fois que je vois cette scène, et pourtant je vois les coutures, je vois comment ils ont fait la séquence, comment ils l'ont tournée, tu vois, la route et tout, méchant. Mais à chaque fois que je la vois, j'ai des frissons. Et non,
bien,
voilà,
bien sûr, la scène est géniale. Ouais. Mais tu vois, mais pour reprendre un exemple plus cinématographique, à un moment donné, l'intérêt des Missions Impossibles, à un moment donné, c'était pas l'histoire des Thanos, on s'en foutait. C'était qu'à chaque film, t'as De Palma, puis t'as John Woo, puis t'as J.J. Abrams, enfin voilà. À chaque fois, t'as des cinéastes différents qui proposent leur propre version du truc, et c'est ça qui. C'est ça qui fait le sel ou pas du truc, quoi. Et finalement, et tu vois, et là où ils se sont perdus, c'est que Macquarie est arrivé, il a fait un Mission Impossible absolument génial, et après, il est resté. Et en fait, le fait qu'il soit resté, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est habitué à son style, et qu'on s'est
rien. Caricature de toi.
Et tu reviens à la caricature et on repart sur l'histoire d'Ethan, alors qu'en fait on s'en fout. Enfin, tu vois, c'est pas ça le plus important, quoi. Ça aurait été mieux qu'effectivement Macquarie laisse sa place à un Kim Ji-woon, j'en sais rien, tu vois, j'aurais adoré voir un Mission Impossible par Kim Ji-woon, tu vois, pour reciter Kim Ji-woon la deuxième fois dans ce podcast. Mais bon, voilà. Et là, en tout cas, voilà, l'intérêt, il est là. C'est qu'on a des visions d'artistes, des visions fortes. Sur tous les plans, et que même si t'as des segments qui sont moins intéressants ou moins réussis, globalement ça reste vachement intéressant, même si t'es pas fan de Matrix, en fait, même ne serait-ce qu'en termes de propositions d'exercice, voilà, graphique ou d'exercice d'écriture, il y a suffisamment à manger dans Animatrix pour que tu y trouves ton compte, quoi.
Ouais, voilà, c'est pas fondamental. Et alors, faut que je dise, c'est vrai que ça a ouvert la porte à Star Wars par l'animation japonaise et tout. J'ai jamais pu aller jusqu'au bout de ces trucs, mais pas parce que ils étaient individuellement tous, je suis sûr, très bien réalisés. C'est juste que j'ai eu la lassitude du Star Wars verse bien avant, et en général, j'en regarde deux et je fais, ah, c'est bon, j'ai ma dose de combat Jedi par des gens que je connais pas. Voilà.
Et surtout Star Wars, le gros problème qu'ils ont, et même sur des choses comme Mandalorian, l'intérêt au début, c'est que c'était une mini histoire dans le mini monde, tu vois ce que je veux dire, quoi.
Ouais.
Et qu'en fait, au final, ils ont fini par raccrocher ça au Skywalker encore une fois, et que là d'un seul coup tu t'empêtes dans des trucs où et même quand t'as suivi, c'est-à-dire que là il y a Baby Yoda the Movie qui est au cinéma. Moi j'ai vu toutes les saisons de Mandalorian et j'ai vu le Book of Boba Fett, donc c'est dire si, et je ne me souviens absolument pas de ce qui se passe à la fin, je ne sais plus, Enfin, c'est tellement le désintérêt était total. Alors, au bout d'un moment que je ne sais plus ce qui se passait, quoi.
Cet homme n'a pas regardé Grogu, mais je tiens à vous dire un truc. Pour Mandalorian, le film, il n'y a pas besoin de... Genre, t'as pas besoin. Le seul truc que tu dois savoir, c'est que Mandalorian, il a son petit pote avec lui, c'est un peu son apprenti, et c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Il n'y a aucune référence au film et tout. Alors, plein de gens vont me dire, ah ouais, mais ça introduit truc muche du dessin animé de mes couilles ou je sais pas quoi, là. C'est pas grave. Genre, moi, j'ai... Genre, je vois juste le film. Et malheureusement, c'est juste le film. Alors, écoute...
Animatrix.
On va classer Animatrix.
On va classer Animatrix.
C'est pas... Il y a... Au meilleur des cas, les shorts sont inoffensifs. Il n'y a pas de goût.
Non. Voilà.
Il n'y a pas de vilain canard.
Il n'y a rien de mauvais. En fait... Il y a rien de mauvais et en même temps il y a des trucs très bien, mais en même temps effectivement il y a rien de fondamental. Enfin voilà, il y a pas de truc. C'est juste très bien. Voilà, c'est un truc. Alors, voilà, c'est difficile à dire, mais voilà.
Matrix Reloaded est 193e.
C'est mieux.
Tu trouves ça mieux? Ok.
D'accord. Ah bah oui.
Eh, moi individuellement quand même Matrix Reloaded, si je le défends. Hein. Je te dis, il y a cette scène de moto évidemment, mais par contre il faut se taper. Les galoches avec Monica Bellucci.
Ouais, et puis, la scène de baston contre les Sam Smith qui faisait déjà mal à voir à l'époque et qui, je trouve, a vieilli encore plus. Là, c'est aujourd'hui, je trouve ça irregardable.
Aujourd'hui, t'as l'impression que c'est fait par une IA, en fait, c'est le paradoxe.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, t'as l'impression que c'est fait par une IA. Alors, justement, les fans des Wachowski vont dire oui, mais en fait, c'est fait exprès, c'est ultra visionnaire, machin. C'est juste que non, c'est pas. Non, stop.
Je regarde, je monte.
Est-ce que c'est mieux que Lilo et Stitch?
J'étais en train de regarder ça. Je n'ai aucun affect pour Lilo et Stitch. C'est toi qui l'a classé si haut.
Ah bon, c'est moi qui l'a classé si haut. Je ne me souviens absolument pas.
On a Diageros de Viaje, carnet de voyage, 148e.
Bah, tu vois, 147, il y a le pacte des loups. C'est moins bien que le pacte des loups.
Bien que le pacte des loups. Bon, et je suis prêt à mettre ça au-dessus d'X-Men 2 pour la forme.
Ah non, mais non, par contre, ça va sous le bon, la brute et le cinglé. Je parle des Kim Jong-un.
C'est sûr.
Et bon, on peut le mettre là, en dessous du bon, la brute et le cinglé, et au-dessus de Walk the Night, par exemple.
Animatrix, c'est Animatrix. Facile à écrire. Hop. Il nous reste un dernier film à voir. Enfin, à voir.
Oui, à discuter.
Je ne sais pas si tu l'as vu, et c'est un film que j'ai revu cette année parce qu'il est ressorti au cinéma. C'est un film de 2001 de Rintaro qui s'appelle Metropolis.
Ah, je ne l'ai pas vu, le Metropolis de Rintaro.
Ah, bah écoute, c'est quoi ? Tu veux que je te dise un truc ? Alors, c'est un des premiers films pour lesquels je me suis endormi en salle à l'époque.
Le début d'une longue lignée, quand même.
Oui, bien sûr. Oh, putain. Je t'ai pas encore parlé des films canois, là, quand j'ai vu le film avec 3 heures des pattes avec Virginie
Efira.
Avec ta copine Virginie Efira qui.
C'est ça. Dis pas de mal de Virginie. Attention.
Ah non, je l'adore. Hein, je l'adore. Mais bon.
Je ne permettrai pas ce que.
Elle parle japonais très très bien.
Ah bah écoute.
Et donc. Écoute, Metropolis, donc, c'est de Rintaro, mais. Scénario Katsuhiro Otomo, et tu sais quoi, quand tu le re-regardes, quand tu vois le film, you can tell. C'est genre. C'est un soft remake de Akira.
De Akira, c'est ce que j'avais cru comprendre.
Et tu sais quoi, c'est super. Et vraiment, juste pour te donner un. Je veux pas influencer ni rien ton regard quand tu le verras, parce que tu le verras sans aucun doute. Il y a un truc que je trouve vraiment très malin dans ce film, et c'est rétroactivement, c'est qu'il y a une 3D qui est utilisée dans ce film, et qui est 3D en aplat.
D'accord.
Et que moi, je trouvais à l'époque un petit peu ringardos, c'est genre, je me dis, ah, c'est bizarre, c'est une 3D en aplat et tout, mais brillante, tu vois. Et en fait, si tu regardes, en fait, elle retranscrit très bien l'ambiance néo-rétro du film.
D'accord.
Genre, okay. Au bout d'un moment, ça m'est arrivé, je me suis dit, ah putain, quel coup de génie quand même. Et c'est un film à revoir qui a été super. Vraiment, j'ai pas. La deuxième fois, je me suis pas emmerdé une seule fois.
Voilà, ok, bon, et bah écoute. Non, mais c'est pareil, il est sur ma liste, mais malheureusement, j'ai jamais vu.
Bon, écoute, soit t'as une reco, soit on peut faire un devoir de vacances.
Bah écoute, t'avais fait un devoir de vacances, autant que ce soit utile.
Ouais, et alors, on se dirige. C'est un film qui est une adaptation de jeu vidéo.
Putain, oh, t'as vu Hitman?
J'ai vu Hitman, de, un film de 2003. Avec. De...
C'est ouais. Timothy Olyphant, c'est celui-ci.
C'est celui avec Timothy. Attends, est-ce que c'est celui avec Timothy Olyphant?
Parce qu'il y en a eu plusieurs.
Attends, oui, attends, non, il y a eu plusieurs. Attends. C'est Hitman. Attends, parce qu'à chaque fois que je regarde.
C'est celui de Timothy Olyphant avec Xavier Jeance, c'est ça?
Attends, que je vérifie, parce que. Attends, qu'on se gourre pas. Qu'on se gourre pas. Sinon, ça va être la honte. Non, parce que j'ai mis 2003, mais en fait, non, en fait,
il y en a non, pas. Non, il est un peu plus tard, je crois, il est 2004, ouais, c'est 2006. 2007. Ou... 2007. Ah, 2007, oui, ouais, c'est ça. Mais c'est le premier, alors, quoi.
Ouais, c'est le premier film, oui. Avec Timothy Olyphant. Est-ce que je peux dire déjà un truc? Très mauvais casting. Je sais pas
oui,
qui.
Oui, alors, je suis entièrement d'accord, je n'ai pas compris non plus. Très mauvais casting, et en plus, il est très très mal dirigé. Enfin, Timothy Olyphant, c'est un acteur que j'aime. Pour lequel j'ai une certaine sympathie, parce que j'ai vu la série Justified, dans lequel il affronte Walton Goggins, et donc forcément, alors il y a un truc qui est génial avec Justified, qui est une série que je trouve sympathique, pas génial mais sympathique, c'est que le personnage de Walton Goggins, en fait, il apparaît dans le premier épisode de Justified comme un antagoniste, et en fait il devait apparaître que là, mais le créateur de la série a trouvé Walton Goggins tellement bon qu'il a transformé son personnage en rôle récurrent. Donc voilà, tout ça pour dire, voilà. Mais du coup, oui, très très mauvais casting que Timothy Olyphant en 47. Alors là, je pense que c'est le rôle où il joue le plus mal de sa carrière, et pourtant, j'ai vu Alien Earth. Donc,
c'est vrai qu'il est dans Alien Earth, ouais. Oh mon dieu.
Tout peroxydé, là, tu sais, en Billy Idol, là. Incroyable. Je suis traumatisé.
Écoute, tu sais quoi, il y a aussi un détail qui me frappe aussi, c'est que j'ai découvert Hitman beaucoup plus tard que toi, j'ai découvert ça il y a quelques années, c'était un jeu de confinement pour moi. Et j'ai eu un choc, je me suis dit, c'est génial, parce que pour moi... C'est...
Tu les as découverts avec la nouvelle série, là, en fait, enfin, les Hitman modernes, ouais. 1, 2 et 3, oui, ok. Oui, ouais, qui sont géniaux, vraiment.
Qui sont vraiment la version la plus calibrée de ce,
ouais,
ce
classique, c'est ouf, ouais.
de ce jeu. C'est vraiment incroyable. Et ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est que c'est une proposition qui est de faire revivre le point and click, en fait.
Oui, c'est quelque part, ouais.
C'est un point and click, mais en 3D, où tu diriges un personnage et où tu dois faire des choses, mais où sky is the limit. Tu peux un peu tout faire. Et ton but, en général, c'est d'aller assassiner tel ou tel mec qui est le mec le plus protégé du moment dans l'endroit où tu es. Et c'est vraiment été un choc. Vraiment, c'était un jeu qui m'a passionné. Je pourrais refaire toutes les missions par pur plaisir et refaire les différentes combinaisons.
Moi, les trois Hitman, là, du coup, parce qu'aujourd'hui, quand tu peux acheter la trilogie dans ce qu'ils appellent World of Assassination, c'est un jeu que je ressors souvent, en fait. De temps en temps, je ressors, je vais aller me faire la mission dans le Colorado, paf, je vais me faire la mission à Hokkaido. Enfin, je trouve ça génial, quoi.
Et en plus, ça, tu as raison de le dire. Les missions sont en général inspirées de James Bond, bien évidemment, parce que c'est des bases de méchants de James Bond. T'es dans une villa en Toscane, et puis tu ouvres une porte, et tu descends un truc, et puis tout d'un coup, t'as un lanceur nucléaire qu'il faut désactiver. Ouais. Et c'est vraiment... Il me donne le frisson de James Bond, mais au premier degré, c'est-à-dire, il n'y a pas les vannes, mais les vannes, elles sont contextuelles, c'est-à-dire si tu pousses un mec dans le vide,
exactement, drôle, ouais.
Voilà, où tu pousses un mec, il y a genre un shredder, je sais plus comment dire, un truc,
un broyeur,
et genre tu pousses le mec dans le broyeur et ça devient un gag. Mais c'est jamais drôle en voulant essayer, et t'essayes pas de l'être. Et je trouve que c'est très très malin en termes d'écriture. Chaque mission apporte un angle différent. Ma mission préférée, évidemment, c'est les États-Unis, parce que t'es dans une banlieue pavillonnaire américaine, ce qu'il y a de plus normal. Puis à un moment, tu trouves une maison lambda, ça pourrait être n'importe laquelle. Ils sont tous en train de faire le truc barbecue, et là, tu ouvres la porte, et en fait, tu tombes, c'est un paradis communiste. Et en fait, tu comprends que c'est des communistes qui se sont infiltrés dans les États-Unis. Il faut les détruire. C'est génial. Bref, voilà pour la reco Hitman. Moi, il y a un truc que je déteste dans le jeu Hitman, et je te le dis comme ça, c'est tout ce qui est le lore.
c'est que quand ils essayent de faire des histoires dans Hitman, les jeux,
oui,
hein,
bah, oui, les trucs, t'en fous un peu, bah oui, oui,
c'est
bien sûr.
Nul à chaque fois.
C'est, et chez... c'est que c'est qu'un prétexte en fait. Enfin, globalement, ouais. Tout ce qu'il te faut, c'est avoir un monde ouvert. Et les scènes de foule, moi, les scènes de foule, par exemple, la map à Bombay. Ah oui. J'adore me balader dans les rues, traquer le mec dans la rue, etc., trouver l'ouverture. Enfin, c'est...
Non, mais même au Maroc et tout.
Au Maroc, ouais, pareil, ouais. Et je... en fait, effectivement, non,
vraiment,
oui.
elles sont super. Toutes les missions ont vraiment des angles très différents. Et...
Mais effectivement, ouais. Le scénario, le pourquoi tu le fais, globalement, tu t'en tamponnes. Enfin, t'es pas là pour ça, quoi.
Tu t'en tamponnes. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que le film essaye de brader autour de ça, alors que c'est le truc qui m'intéresse le moins. Et en fait, on se rend compte que soit tu fais un James Bond, soit tu fais un truc avec de la personnalité, soit tu fais un truc un peu abscon. Et il y a un vrai problème, à mon avis, d'écriture, d'histoire, en fait, là-dedans. C'est que c'est pas bien écrit, tout simplement. C'est complètement lambda, quoi. J'aime pas du tout la manière dont se déroule le film. Enfin, genre, ils vont à droite, à gauche, machin. Et j'ai oublié de le dire, et à un moment, il doit tuer Olga Kurylenko. Et en fait, Olga Kurylenko, elle-même, est un double agent, enfin, tout ça. Et Olga Kurylenko est le meilleur aspect du film, parce qu'elle a l'air d'être super investie. Elle s'est dit, moi, en tant que russe, en tant que membre de l'Union soviétique, je vais la jouer à fond. Tu sens qu'elle joue sa vie dedans.
C'est le meilleur acteur du film, effectivement, c'est elle, c'est sûr.
Olga Kurylenko est incroyable dans ce film, comparé à Timothy Olyphant, qui pourtant il devrait avoir rien à jouer, il arrive à être nul dans le rien.
Il arrive à être nul, ouais. Ouais, je suis d'accord.
Et il y a Robert Knepper que les gens connaissent peut-être à cause de... c'était quoi déjà la série là ? C'était Prison Break.
Et oui, et il y a aussi Ulrich Thompson qui joue dans Banshee.
Oui, qui joue... Ah, c'est lui qui joue
le mormon. Le mormon. Dans Banshee, la série qui a révélé Anthony Starr, que vous connaissez tous, puisque c'est l'interpréteur de Homelander dans The Boys, qui vient de se terminer. Voilà.
Je lui souhaite beaucoup de chance à Anthony Starr, parce que je l'aimais bien déjà.
Ouais,
je l'aimais bien dans Banshee. Mais le truc,
j'aime beaucoup aussi, ouais.
C'est un rôle qui va lui coller. Il faut qu'il fasse des rom-com, là. Il faut qu'il change de...
Honnêtement, Tony Starr en Homelander dans The Boys, il est tellement bon. Et il a le meilleur personnage de la série, que à mon avis, j'ai peur que sa carrière ne s'en relève pas. Enfin, tu vois,
il a le rôle de sa life.
Il avait le rôle de sa life, et il est génial dans toutes les scènes. Enfin, il est génial, quoi. Et je pense qu'effectivement, ça sonne comme le rôle qui ne pourra jamais dépasser, quoi. Ouais. Donc, je souhaite d'avoir une carrière derrière, mais je sens que en tant que spectateur, on aura du mal à dépasser ça, quoi.
En même temps, Homelander, le truc, c'est que... C'est qu'avant, dans Banshee, c'était un rôle très très physique, quoi. C'était vraiment une masse de muscles et très très beau. Hein. Je pense que son apex, c'était Banshee, le pauvre.
Ah bah, en termes de sexe à pied, oui, complètement, ouais.
Et là, ça lui permet quand même de jouer un méchant à 2000%. En plus, dans une époque où, tu sais, la barrière entre les méchants et les méchants n'est pas très claire pour tout le monde. Où, moi, je suis à la saison 3 et c'est le scandale, parce que du genre, les gens disent « Oh, Homelander était sorti avec une nazie !» Genre, il était là genre « Oh, je lui ai pas demandé, on parle pas politique !» Pourtant, il y avait quelques indices, dont la croix gammée qu'elle portait. Oh là là, putain, c'est vraiment... C'est très très cynique, hein, The Boys. Et c'est un des rares cas où la BD... comment il s'appelle ?
L'adaptation est meilleure que la BD.
La cinématisation est meilleure que le BD. Mais bon, maintenant, on a tressé tout ça, c'est pour dire que Hitman, donc le premier film que je connaisse, est nul, mal écrit, mais vous savez quoi ? C'est un film EuropaCorp. j'ai oublié de faire cette précision. Ça sent à tous les niveaux, quoi.
Mais c'est... Oui.
Ça fait James Bond, mais qui n'a pas eu la licence. Ça fait James Bond de Wish, quoi.
Oui, mais complètement. Enfin,
et en plus, il faut dire le héros chauve, là, je ne sais pas.
Non, mais le truc, c'est que Timothy... C'est bon, ouais, Timothy Olyphant n'est pas du tout dedans, mais je pense qu'il est... Il est extrêmement mal dirigé. Xavier Jeance, enfin, encore une fois, Xavier Jeance, j'ai beaucoup de problèmes avec sa filmographie. Il a fait Farang, qui est super.
Farang est génial.
Farang, c'est vraiment, vraiment super. Mais tout le reste de sa filmographie, c'est... Et Hitman...
Je connais pas assez. Moi, j'ai vu Frontière, qui était...
Frontière, avait... je, je trouve ça tout pété. Colskin.
C'est pété, mais il y a des bons trucs dans Frontières.
Frontières.
Les actrices sont super.
Frontières, il y a deux, trois trucs qui sont sympas, mais globalement, ça tient pas debout. Colskin, c'est super chiant. Sous la scène, j'en parle pas. Budapest, c'est une honte.
Ah, c'était sous la scène. Alors, sous mais la scène, j'aime bien.
Ah, sous la scène, moi, je...
Non, sous la scène, j'aime bien. Parce que il y a... C'était Anne Maravin ou c'est qui joue la... Je crois que c'était Anne Maravin hein, qui joue...
Je ne sais plus qui...
Elle joue une... Un croisement entre Rachida Dati et Anne Hidalgo.
Ah oui,
est...
exact.
Oh là là, mais extraordinaire. Et il y a le fameux comédien que j'adore qui s'appelle Nassim Lies, que tu as peut-être vu dans Bagarre, puis tu devrais le voir. Parce
j'ai pas vu Bagarre, mais, les... c'est l'acteur de Farang, donc voilà.
Extraordinaire acteur hein, aussi. Hein.
Mais voilà, mais du coup, mais je pense que son film préféré de lui, ça doit être Budapest, le Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe.
Alors, clairement, ça, c'est son. C'est son film de commande, hein. tu le sens. Enfin, c'est pas.
Oh bah, même les autres. Enfin, Eightman. Enfin, c'est un pur film de commande, etc. Et en fait, le truc de Xavier Jean, c'est que il est pote avec l'ancienne bande de Mad Movies, et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, les gens se sentaient obligés d'en dire du bien parce que dans Mad Movies, ils en disaient bien parce que c'est son pote, mais en réalité, son cinéma, il est.
J'ai pas tout vu, mais moi je suis prêt à défendre les 2-3 trucs que j'aime bien dans Frontières quand même.
Hitman, enfin c'est.
Hitman, c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est bon.
Visuellement, enfin, pour dire, voilà, même la mise en scène, enfin, bon, le film s'éloigne énormément du jeu vidéo, bon, pourquoi pas, etc. Mais quand il fait de l'action, c'est. Enfin, c'est très très mauvais. Enfin, on est. On est sur un truc, voilà, on est dans la lignée d'Europa Corp de ces mêmes années. On avait fait il y a pas longtemps From Paris with Love.
Ah oui, ça on l'a fait il y a pas longtemps. Beaucoup de gens l'ont redécouvert à ce moment-là.
On est dans la même lignée quoi. C'est vraiment pas bon quoi.
On va le classer quand même.
On va le classer.
Alors. Moi je baisse très bas. Hein. Je
préfère Banlieue 13.
Putain, oh là, il dit les termes. je préfère Banlieue 13. Putain, mais vraiment, Battle Royale 2, ça me fait chier un peu quand même.
Ouais, mais
Samouraï est plus fort comme nanar quand même.
Ouais, non, mais c'est moins bien que Battle Royale 2, hein, c'est sûr. Par rapport à Bloody Mallory.
Ah, écoute, je trouve ça mieux parce que. Olga Korolenko.
Donc tu préfères Olga Korolenko Olivia Bonamy quand même. Je note.
Non, je pense que Olga. Je l'appelle Olga parce que on s'est croisé une fois. non mais c'est vrai en plus. On a parlé russe. Olga et elle se donne à fond dans son rôle. Genre elle le joue comme si elle faisait un film à César quoi. Elle a du méthode acting, je sais pas quoi, mais en tout cas, elle est pas dans le même film, elle est hors catégorie.
Alors c'est sur Maguchi à elle, quoi.
Oui, et personne lui a dit que c'était nul, en fait. C'est vraiment, c'est fou de commencer sa carrière là-dessus et ensuite de pouvoir continuer, quoi, surtout. Et bon,
alors, par rapport à Carlitos Way 2.
Vraiment, c'est dégueulasse ce que vous faites. Je trouve ça mieux que Carlitos Way 2.
Ok. Mais putain, ouais, c'est mieux que 3-0.
La folle mode Korolenko quand même, elle est incroyable quand même. Elle a des films dans tous les sens. Je comprends pas.
Moi, je te le mettrais entre 3-0 et Ce que veulent les femmes.
Banco.
Allez.
Allez. Donc c'est Hitman.
La fin du classement ne ressemble à rien.
Allez, les 50 derniers ici prennent cher. Je crois qu'à partir de Daredevil, c'est parti en vrille.
Ouais, ça n'a plus aucun sens.
Genre, pourquoi Wasabi, il est 366e? Comment Angela s'est retrouvée au-dessus de Wasabi? Comment 40 jours et 40 nuits? Ah, bah, je peux voir pourquoi 40 jours et 40 nuits. Mais Battlefield Earth reste le digne dernier. Stéphane, on en a fini pour aujourd'hui. Oui. On a fait deux listes, oui. Les amis. Deux listes et un devoir de vacances. Et je m'engage à faire un devoir de vacances d'ici au prochain épisode, comme on a prévu d'enregistrer le prochain dans une semaine, n'est-ce pas
Oui, bien sûr, c'est ça. Bien sûr.
Non, il faut lui laisser quand même une piste de secours d'une semaine pour s'en remettre.
En sachant que là, on arrive sur une période de conseil de classe et après l'organisation du brevet, je pense que ça va être compliqué.
Bah écoute, donne-moi ton bulletin et je vais te mettre une bonne appréciation et tu verras.
C'est ça.
Élève voulait. Alors Stéphane, tu sais qu'on finit l'émission sur une reco et je t'ai demandé à l'avance une reco parce que je me suis dit quand même, il a eu 3 mois, non, t'as eu un mois pour préparer, donc vas-y Stéphane, lâche-la-watt, comme on disait. Lâche-toi. Personne ne disait Chelawatt, mais...
Personne ne le disait, oui, c'est vrai, mais pourtant, c'était le nom d'une émission.
Ouais. Ils ont fait une émission, Chelawatt. C'était l'émission de D-Fool. Tu sais, genre ils essayaient, de tabler sur le succès de Love in Fun. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a... Le dernier épisode, c'était 6 semaines. Donc, si je le monte vite, écoute, il sera...
On va y arriver.
Voilà, on va y arriver. Je pense que le prochain, ça sera... Il y aura les vacances. Écoute, il y aura les vacances. C'est ce qu'il faut t'appeler.
C'est ça.
Allez, Stéphane, vas-y, lâche-toi.
Marocco, c'est une surprise totale, puisque voilà, depuis maintenant plus de... Oula, quoi, 15 ans, je... Non, c'était quand ? Oui, non, pas 15 ans, mais 12 ans, je ne suis plus vraiment l'actualité du jeu vidéo, ce qui fait que globalement, je sais qu'un jeu vidéo sort au moment où il sort. Et je vous rassure, c'est vraiment un super pouvoir. C'est vraiment la meilleure façon de consommer le jeu vidéo. Et donc là, ce serait une reco jeu vidéo avec un jeu qui m'a cueilli complètement par surprise.
Mais tu oublies de dire que c'est grâce à votre soutien,
c'est ça,
grâce au Patreon,
que j'ai pu y jouer. Exactement.
Qu'on a pu y jouer. Et c'est vrai que j'ai parfois des bonnes surprises. Et je dis à Stéphane, j'ai un jeu pour toi. C'est arrivé hier. Ne dis rien.
Exactement.
Ça reste entre toi et moi. Chut,
exactement. On se comprend.
Voilà. Mais voilà, lâche-toi.
Et donc là, effectivement, ce jeu, c'est Pragmata, donc le dernier né de Capcom, et que j'ai trouvé non seulement bon, mais j'ai trouvé ça en fait vraiment génial de bout en bout. C'est-à-dire que le concept de mélanger un shooter, en fait, un shooter à la troisième personne avec un puzzle game de hacking, le tout en temps réel, sur le papier, tu te demandes comment ça peut fonctionner, et en vrai, ça fonctionne hyper bien, et surtout, tu te dis, mais comment est-ce que ça n'a pas tourné en rond? Et ben, en fait, ça tourne jamais en rond parce que tu vois vraiment toute la science presque du jeu d'arcade, en fait, des mecs, parce qu'ils arrivent, en fait, à réinjecter tout le long du jeu, plein de toutes petites, des nouveautés par petites touches, mais qui changent suffisamment le gameplay pour le rendre à la fois dans une façon très cohérente et logique, mais toujours plus profond et toujours plus fun, en fait. Et au-delà de ça, moi, j'adorais le fait que finalement, tout est hyper bien pensé, en fait. Donc, t'as ces deux gameplays qui cohabitent, qui sont incarnés chacun par deux personnages différents, et en fait chaque gameplay, chaque personnage a sa moitié de manette, en fait, que tu contrôles. Enfin, il y a un truc assez génial de la partie droite est consacrée à Diana, alors que la partie gauche est consacrée au mec. Et enfin, il y a vraiment ce tout dans le moindre détail, il y a vraiment cette idée de dichotomie qui est pensée et qui fait que qui tourne autour de la thématique principale de l'histoire, qui est que tout seul on n'avance pas, en fait, et qu'il faut gagner cette symbiose. Enfin, il y a vraiment un truc assez fou que je trouve à la fois dans le game design, que dans l'histoire et dans les personnages, et puis la direction artistique. Incroyable, enfin, c'est un univers de SF que j'ai trouvé à la fois magnifique et à la fois hyper cohérent. Enfin, grosse claque, voilà, grosse claque. Même le endgame est vraiment super.
Ouais, c'est le endgame, c'est ce que j'ai dit dans ce message, j'ai dit, vous savez, les jeux Capcom, on vous oblige à refrapper 10 000 fois le même boss.
Le même boss, oui.
Ou les séries de 5 boss successifs avec juste un pattern en plus et des couleurs différentes. Et vous en avez ras-le-bol, vous avez envie d'arrêter. Ben, il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça. En fait, ils réussissent à prendre ça, parce qu'il y a un peu de ça, et en même temps, à nouveau, à le twister suffisamment pour que ça reste intéressant. Enfin, il y a vraiment une intelligence et presque une érudition du gameplay made in Capcom qui est assez folle. Et en fait je pense que c'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une équipe assez jeune mais chapeautée par des vétérans de chez Capcom, et ils arrivent à injecter du sang neuf. Enfin, il y a vraiment un truc, voilà, je m'attendais pas à ce que le jeu fonctionne aussi bien. Et chapeau à eux aussi pour investir finalement un aussi gros budget sur une nouvelle licence, parce que malgré tout, même si tu t'appelles
Capcom, voilà, pu jouer la sécurité, tout ça, alors que non, pas du tout.
Ouais, t'aurais pu mettre un skin Resident Evil, enfin tu vois, j'en sais rien, enfin tu vois, peu importe. Non, ils vont vraiment à fond dans la nouvelle licence et se l'approprient de A jusqu'à Z, que ce soit dans le gameplay, dans l'univers, etc. Et ils le font avec les moyens, enfin le RE Engine, mais incroyable moteur, enfin c'est d'une beauté, d'une fluidité, enfin c'est enfin voilà, j'étais vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas été subjugué par un jeu comme ça.
Je trouve qu'il est très très beau et il maîtrise très bien les moments de silence. C'est-à-dire les moments où t'es dans l'espace et c'est beaucoup.
Oui, le rythme est super. Hein.
C'est beaucoup plus silencieux, mais en même temps tu sautes, tu sautilles et tout, t'as la pesanteur. Et en même temps, par moments, ça s'excite d'un coup. Et je trouve que l'idée d'avoir un ennemi qui est une IA qui prend le contrôle et qui dit en fait t'es l'intrus. Et finalement, là, ils ont raison, en fait c'est toi l'intrus dans le système. Et c'est vraiment très très malin. Moi, le seul truc que je trouve un peu easy peasy, mais bon, c'est l'intelligence artificielle de la fille qui t'accompagne. Elle est programmée comme une petite fille qui normalement apprend les choses instantanément, puisque c'est une mécanique, c'est un robot. Donc normalement, si elle te dessine un truc, elle devrait pouvoir te dessiner un truc comme un Rembrandt, parce qu'elle est connectée sur une base de données, et paf, elle te dessine le truc comme un Raphaël. Le problème, c'est qu'elle te dessine des trucs comme un enfant de 4 ans, ce qui est bizarrement cohérent. Enfin, je trouve que l'IA... La personnalité de la fille est un peu bizarre. Il essaye de la maintenir du côté quand même très très enfantin. Et en même temps, elle peut t'arrêter une espèce de vague déferlante d'espèce de truc d'assaut matrixien de fou. Il y a un truc un peu bizarre là-dedans. C'est le seul défaut que je trouve.
C'est ce qui te permet aussi de t'attacher à elle en fait.
Il y a une relation père-fille évident, et ça a dû parler à certains, n'est-ce pas?
Ah ben, moi j'ai trouvé la relation, enfin j'ai trouvé ça hyper touchant en fait. Moi je trouve que les deux personnages, en fait, la façon dont ils se répondent et ils se complètent, j'ai trouvé ça assez fort, quoi.
Et c'est un réalisateur coréen qui s'appelle Wong Kee-cho.
Oui, tout à fait.
Qui était le directeur artistique sur Resident 7. Et il a travaillé sur Nier Automata, sur Revengeance, enfin vraiment, genre il a un putain, sur Metal Gear Rising Revengeance, j'entendais, il a un CV de fou furieux, et je trouve ça intéressant. Mais ce qui nous intéresse, nous, au cinéma, Shoji Kawamori, donc créateur, concepteur, réalisateur, méca designer, Macross, c'est lui, il a fait la direction artistique, la cohésion du monde et tout, c'est lui qui a fait tout le world building du truc, les mecha design, ce que j'appellerais mecha design usuel, c'est-à-dire les combinaisons, le fait que les portes s'ouvrent comme ci, comme ça, c'est vraiment du super taf, vraiment très très beau, quoi.
Ouais, non, ça déchire, quoi.
Et moi, j'ai une reco aussi, jeu vidéo, mais alors c'est un jeu vidéo que j'ai eu hier, et j'ai joué que 1h30, mais alors c'était ma meilleure 1h30, et tu sais de quoi je vais parler.
Je sais de quoi tu vas parler.
C'est pour une fois que j'ai un bon jeu qui sort pour mon ailleurs, c'était mon ailleurs, c'est rien.
Et c'est en cohésion finalement avec le contenu de l'épisode, donc vraiment.
Oui,
c'est...
puisqu'on parle de Hitman, évidemment. Exactement. Et évidemment, ce jeu, c'est 007 First Light. Et alors, j'espère, gageons que tu le reçoives bientôt.
Gageons que.
First Light, et vous l'avez sans doute entendu parler, c'est un des rares, pour l'instant, produits James Bond depuis le rachat de la licence Bond par Amazon. Moi, j'ai joué que le début, c'est-à-dire j'ai joué le prélude et j'ai joué le tuto. Mais le tuto, c'est un des meilleurs tutos que j'ai jamais joué à un tuto aussi kiffant de ma vie. Pourquoi? Est-ce que tu veux que je te dise ou pas, ou tu veux te
moucher? Non. Moi, en fait, si tu veux, quand j'ai vu le projet annoncé, c'est-à-dire Yo Interactive, les papas de Hitman, la licence James Bond, j'ai fait non, je t'ai plus. J'ai toutes les infos qu'il me faut.
Je veux juste dire un truc sur l'intro, mais c'est juste l'intro. Hein. Ouais, c'est juste l'intro.
c'est que l'intro, donc le tuto, c'est la formation de James Bond. Donc c'est la formation de James Bond qui rentre à l'académie, tout ça, il rentre au MI6 alors qu'il y était mêlé. C'était un Navy. Donc ils expliquent un peu ce truc-là. Ils expliquent aussi pourquoi il a sa cicatrice, puisque oui, c'est un James Bond qui a inspiré des non romans. Pas des films, mais des romans de Ian Fleming.
Tout à fait.
Ce qui est vraiment très très différent comme idée et comme ambiance. Et qui explique pourquoi il a cette cicatrice, parce que dans les romans,
il a une cicatrice, effectivement.
Il a une cicatrice. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc son entraînement, c'est un training montage. Et c'est génial. C'est vraiment... Quand j'ai joué, j'étais là genre... Ah, merci. Merci. C'est vraiment... C'est très, très malin. Et pour l'instant, en plus, il y a plein de clins d'œil, si t'aimes James Bond, évidemment, dans les noms des gens, dans les machins, trucs comme ça. Mais c'est très, très bien fait. Mais c'est fait, par contre, au James Bond d'aujourd'hui. C'est James Bond qui serait créé aujourd'hui.
Oui, c'est moderne, oui.
C'est pas un James Bond d'époque. C'est pas Origins, années 60, ouais. Années 60 ou années 50, ou peu importe.
Ouais.
C'est si James Bond était né aujourd'hui. Ce qui est la tech qui, à mon avis, est totalement louable. Et j'ai pas encore atteint le méchant, mais le méchant est joué par Lenny Kravitz. J'ai hâte de voir ça. La chanson est chantée par Lana Del Rey.
Mm.
Et c'est d'autant plus marrant parce que Lana Del Rey devait normalement, elle avait fait des candidatures pour chanter le générique de James Bond. Et sa chanson n'a pas été prise. Mais voilà, donc du coup, c'est assez cool parce que du coup, le producteur de la chanson, c'est David Arnold en fait.
Tout à fait.
Qui a fait aussi les chansons des derniers d'à peu près tous les derniers Daniel Craig. Donc voilà, je suis hypé. Je peux pas vous jurer que ça sera le jeu de l'année, mais en tout cas, vous savez qu'on est des fans de James Bond. Vous savez qu'on est des fans et que je suis en manque de James Bond parce que ça fait quand même un bout de temps, on est sans nouvelles. Ils vont nous faire des chiens hein, de James Bond. Ils vont nous faire des films, ensuite ils vont nous faire les séries télé, ensuite on va faire la série Money Penny,
tu sais moi ce que je redoute, c'est que Guy Ritchie actuellement il tourne un à deux films pour Amazon chaque année,
et peut-être il frappe à leur porte, tu veux dire,
et peut-être qu'en fait ça va être le prochain réalisateur de James Bond.
Non, pour l'instant ils ont signé là, il est signé le James Bond pour l'instant.
Oui, mais peut-être celui d'après, enfin tu vois ce que je veux dire, oui, c'est voilà. qu'on est quand même à ça d'y arriver.
On est à ça. En tout cas, voilà, je suis hypé, je suis très fan, je suis fan et tout ça, vraiment, je suis conquis dès le début, quoi. Et il y a vraiment plein, de références et de petits trucs et de machins comme j'aime.
Et moi,
il apprend à conduire sur son Austin Martin. c'est génial.
j'ai hâte de mettre les mains dessus, effectivement, dès que j'aurai 5 minutes, quoi.
Ben oui, mais je pense que bientôt les vacances aidant, on va pouvoir comparer nos copies, comme on dit.
Ouais, exactement.
Ben écoute, c'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui.
Ouf, incroyable, t'es à temps pour aller dormir.
C'est ça.
Demain, 6h du matin.
Exactement.
Rappelons-le, quand tu es chez toi et quand tu n'es pas dans cette maison. L'acoustique était super pour moi, j'espère qu'en enregistrement c'était super. Quand tu vas de chez toi à l'école, tu mets environ 1h30 aller, 1h30 retour.
Deux heures
aller, 2h retour.
Oui. 2h5 pour être tout à fait précis. Mais oui.
À chaque fois, ça augmente. Tu perds 10 minutes. Donc c'est oui, quoi T'es pas sur le même canal horaire là. C'est quoi
C'est ça ce que je veux dire. Je change de fuseau horaire quand je vais au travail quasiment. Ouais, effectivement. Ouais. 4h de transport quotidien, ouais.
Voilà, je comprends que tu sois tout seul dans ta maison. Et mais tu sais quoi, une maison abandonnée comme ça, toute vide, avec juste un matelas posé par terre, ça me rappelle la maison de James Bond dans les derniers Daniel Craig. Il y a un moment, tu sais, il y a
oui,
elle qui va le voir dans le...
C'est ça.
Chez lui, et genre, il a juste un matelas posé par terre et tout. Et en même temps, les rares fois où tu vois chez lui...
Mais Daniel...
Pourquoi il prendrait le temps d'avoir une cafetière?
C'est ça. Daniel, mais tu dis ça, mais peut-être que c'est ça mon nouveau job en fait.
Peut-être que c'est ça. Et tu nous auras bien berné en foire.
Ouais, exactement. Pensez à ça, chez vous.
Comment tu prends ton verre de... Tu le prends Stern
au shaker.
Au shaker, voilà. Évidemment. Allez, on vous embrasse. On vous remercie beaucoup de suivre Super Ciné Battle. Désolé pour l'attente, mais vous avez vu, on a essayé de faire un laps de temps plus court. Et le prochain sera encore plus court. Inch'Allah, comme on dit. J'allais dire bonne fête à tous ceux qui font la fête, mais... on enregistre un jour après, donc
à la rigueur, bonne fête à ceux qui font la fête, peu importe la fête que vous faites.
C'est vrai, en tout cas.
Tant qu'à faire comme ça, voilà.
Voilà. Mais tu sais quoi, On est dans une année électorale. Moi, je dis, faites la fête, quoi qu'il advienne, qui que vous soyez, vous avez le droit de faire les fêtes que vous voulez, merde. Pas de bien politique dit. Dans ce podcast, putain de merde. J'étais ravi de faire cet épisode avec toi, Stéphane.
Moi
j'espère
aussi,
que tu as rassuré tout le monde sur ton état.
Oui, oui, enfin, j'espère, j'en sais rien, après.
Là, il fait... j'ai rencontré le pharmacien de garde.
C'est ça.
Tu vas te retrouver avec la tête de Elephant Man. On vous embrasse très fort. On remercie tous les patrons, patreon.com/RPU. Sachez que ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour produire ce podcast. Et on vous dit à très, très, très bientôt pour un autre épisode dans les années 2010. Je crois que les années 2000. Je crois que j'avais même pas dit qu'on était dans les années 2000 au début de l'épisode.
Bon, maintenant, maintenant tu le dis. Maintenant, on le sait. Voilà. Allez, ciao à tous.
À bientôt, ciao. Ok. Et le chien me regarde à chaque fois que je clappe.
Oudon, tu
restes couché.
Il doit pas comprendre.
Il ne va pas comprendre. Ok. On est prêt.
Moi, j'étais prêt dans le ventre de ma mère, perso.
Oui, oui, je sais, je l'ai dit aujourd'hui à mon... Tu sais que mon boucher, tu sais quoi? Je dis... ils disent on est bon et on a toujours été bon. Et ils le disent tous maintenant.
Bien sûr.
Il y a genre... Un groupuscule de 5 commerces, ils disent tous, même le Rital qui vend de la mozza, il me fait, on a toujours été bon.
Parfait. Je peux mourir tranquille.
Improduction et appelue.